La conquête du pain, nos richesses, chapitre 2. Nous sommes riches dans les sociétés civilisées. Pourquoi donc autour de nous cette misère? Pourquoi ce travail pénible, abrutissant des masses? Pourquoi cette insécurité du lendemain, même pour le travailleur le mieux rétribué, au milieu des richesses héritées du passé et malgré les moyens puissants de production qui donneraient l'aisance à tous en retour de quelques heures de travail journalier? Les socialistes l'ont dit et redit à satiété. Chaque jour, ils le répètent, le démontrent par des arguments empruntés à toutes les sciences. Parce que tout ce qui est nécessaire à la production, le sol, les mines, les machines, les voies de communication, la nourriture, l'abri, l'éducation, le savoir, tout a été accaparé par quelques-uns dans le cours de cette longue histoire de pillage, d'exode, de guerre, d'ignorance et d'oppression que l'humanité a vécu avant d'avoir appris à dompter les forces de la nature. Parce que, se prévalant de prétendus droits acquis dans le passé, il s'approprie aujourd'hui les 2/3 des produits du labeur humain qu'ils livrent au gaspillage le plus insensé, le plus scandaleux. Parce que, ayant réduit les masses à n'avoir point devant elles de quoi vivre un mois ou même 8 jours, ils ne permettent à l'homme de travailler que s'il consent à leur laisser prélever la part du lion. Parce qu'ils l'empêchent de produire ce dont il a besoin et le forcent à produire, non pas ce qui serait nécessaire aux autres, mais ce qui promet les plus grands bénéfices à l'accapareur. Tout le socialisme est là. Voici en effet un pays civilisé. Les forêts qui le couvraient autrefois ont été éclaircies, les marais asséchés, le climat assaini. Il a été rendu habitable. Le sol qui ne portait jadis que des herbes grossières fournit aujourd'hui de riches moissons. Les rochers qui surplombent les vallées du Midi sont taillés en terrasses où grimpent les vignes aux fruits dorés. Des plantes sauvages qui ne donnaient jadis qu'un fruit âpre, une racine immangeable, ont été transformées par des cultures successives en légumes succulents, en arbres chargés de fruits exquis. Des milliers de routes pavées et ferrées sillonnent la terre, percent les montagnes. La locomotive siffle dans les gorges sauvages des Alpes, du Caucase, de l'Himalaya. Les rivières ont été rendues navigables. Les côtes, sondées et soigneusement relevées, sont d'accès facile. Des ports artificiels, péniblement creusés et protégés contre les fureurs de l'océan, donne refuge aux navires. Les roches sont percées de puits profonds. Des labyrinthes de galeries souterraines s'étendent là où il y a du charbon à extraire, du minerai à recueillir. Sur tous les points où des routes s'entrecroisent, des cités ont surgi, elles ont grandi, et dans leurs enceintes se trouvent tous les trésors de l'industrie, de l'art, de la science. Des générations entières, nées et mortes dans la misère, opprimées et maltraitées par leurs maîtres, exténuées de labeur, ont légué cet immense héritage au XIXe siècle. Pendant des milliers d'années, des millions d'hommes ont travaillé à éclaircir les futaies, à assécher les marais, à frayer les routes, à endiguer les rivières. Chaque hectare du sol que nous labourons en Europe a été arrosé des sueurs de plusieurs races. Chaque route a toute une histoire de corvée, de travail surhumain, de souffrance du peuple. chaque lieu de chemin de fer, chaque mètre de tunnel ont reçu leur part de sang humain. Les puits des mines portent encore, toutes fraîches, les entailles faites dans le roc par le bras du piocheur. D'un poteau à l'autre, les galeries souterraines pourraient être marquées d'un tombeau de mineur, enlevé dans la force de l'âge par le grisou, l'éboulement ou l'inondation. Et l'on sait ce que chacun de ces tombeaux a coûté de pleurs, de privations, de misères sans nom à la famille qui vivait du maigre salaire de l'homme enterré sous les décombres. Les cités, reliées entre elles par des ceintures de fer et des lignes de navigation, sont des organismes qui ont vécu des siècles. Creusez-en le sol, et vous y trouverez les assises superposées de rues, de maisons, de théâtres, d'arènes, de bâtiments publics. Approfondissez-en l'histoire, et vous verrez comment la civilisation de la ville, son industrie, son génie, ont lentement grandi et mûri par le concours de tous ses habitants avant d'être devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et maintenant encore, la valeur de chaque maison, de chaque usine, de chaque fabrique, de chaque magasin n'est faite que du labeur accumulé des millions de travailleurs ensevelis sous terre. Elle ne se maintient que par l'effort des légions d'hommes qui habitent ce point du globe. Chacun des atomes de ce que nous appelons la richesse des nations n'acquiert sa valeur que par le fait d'être une partie de cet immense tout. Que serait un dock de Londres ou un grand magasin de Paris s'il ne se trouvait situé dans ces grands centres du commerce international? Que seraient nos mines, nos fabriques, nos chantiers et nos voies ferrées sans les amas de marchandises transportées chaque jour par mer et par terre? Des millions d'êtres humains ont travaillé à créer cette civilisation dont nous nous glorifions aujourd'hui. D'autres millions, disséminés dans tous les coins du globe, travaillent à la maintenir. Sans eux, il n'en resterait que décombres dans 50 ans. Il n'y a pas, jusqu'à la pensée, jusqu'à l'invention, qui ne soit des faits collectifs, nés du passé et du présent. Des milliers d'inventeurs, connus ou inconnus, morts dans la misère, ont préparé l'invention de chacune de ces machines dans lesquelles l'homme admire son génie. Des milliers d'écrivains, de poètes, de savants ont travaillé à élaborer le savoir, à dissiper l'erreur, à créer cette atmosphère de pensée scientifique sans laquelle aucune des merveilles de notre siècle n'eût pu faire son apparition. Mais ces milliers de philosophes, de poètes, de savants et d'inventeurs n'avaient-ils pas été suscités eux aussi par le labeur des siècles passés? N'ont-ils pas été, leur vie durant, nourris et supportés, au physique comme au moral, par des légions de travailleurs et d'artisans de toutes sortes? N'ont-ils pas puisé leur force d'impulsion dans ce qui les entourait? Les génies d'un Séguin, d'un Mayer et d'un Grove ont certainement fait plus pour lancer l'industrie en des voies nouvelles que tous les capitalistes du monde. Mais ces génies eux-mêmes sont les enfants de l'industrie aussi bien que de la science, car il a fallu que des milliers de machines à vapeur transformassent d'année en année, sous les yeux de tous, la chaleur en force dynamique, et cette force en son, en lumière et en électricité, avant que ces intelligences géniales vinssent proclamer l'origine mécanique et l'unité des forces physiques. Et si nous, enfants du XIXe siècle, avons enfin compris cette idée, si nous avons su l'appliquer, c'est encore parce que nous y étions préparés par l'expérience de tous les jours. Les penseurs du siècle passé l'avaient aussi entrevue et énoncée, mais elle resta incomprise, parce que le XVIIIe siècle n'avait pas grandi, comme nous, à côté de la machine à vapeur. Que l'on songe seulement aux décades qui se seraient écoulées encore dans l'ignorance de cette loi qui nous a permis de révolutionner l'industrie moderne, si Watt n'avait pas trouvé à Soho des travailleurs habiles pour construire en métal ses devis théoriques, en perfectionner toutes les parties et rendre enfin la vapeur, emprisonnée dans un mécanisme complet, plus docile que le cheval, plus maniable que l'eau. L'affaire, en un mot, l'âme de l'industrie moderne. Chaque machine a la même histoire, longue histoire de nuits blanches et de misère, de désillusions et de joie, d'améliorations partielles trouvées par plusieurs générations d'ouvriers inconnus qui venaient ajouter à l'invention primitive ces petits riens sans lesquels l'idée la plus féconde reste stérile. Plus que cela, chaque invention nouvelle est une synthèse, résultat de 1000 inventions précédentes dans le champ immense de la mécanique et de l'industrie. Science et industrie, savoir et application, découverte et réalisation pratique menant à de nouvelles découvertes, travail cérébral et travail manuel, pensée et œuvre des bras, tout se tient. Chaque découverte, chaque progrès, chaque augmentation de la richesse de l'humanité a son origine dans l'ensemble du travail manuel et cérébral du passé et du présent. Alors, de quel droit quiconque pourrait-il s'approprier la moindre parcelle de cet immense tout et dire « Ceci est à moi, non à vous ».